Un pour tous, tous pour la croissance, la notion ambiguë de richesse. Vous êtes-vous déjà demandé quel était l'objectif de nos sociétés modernes? Pourquoi vous levez-vous tous les matins pour aller travailler? Quel est le but de cette organisation complexe que l'on appelle tissu économique? Pourquoi les marchés financiers? Pourquoi les entreprises? Pourquoi l'obligation de faire des bénéfices? Pourquoi la création monétaire? La manière dont les règles du jeu ont évolué pour aboutir à ce qu'elles sont aujourd'hui est un sujet éminemment complexe. Pour obtenir la réponse la plus complète possible, il faudrait étudier cette question du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, de la politologie, de la biologie, de l'économie et probablement d'une myriade d'autres disciplines auxquelles je ne pense même pas. En revanche, l'aboutissement actuel de cette construction est relativement facile à identifier. Le but de notre économie est de créer le plus de richesses possible. Richesse dont la valeur se mesure grâce à l'indicateur roi qu'est le produit intérieur brut, PIB. Le but de nos sociétés modernes est ainsi la maximisation du PIB. Mister PIB aux manettes. À l'heure actuelle, est considéré comme une richesse tout ce qui entre dans le calcul du produit intérieur brut, PIB, ce qui suppose que nous définissions ce terme. Tâchons d'approcher au plus près de cette notion barbare et toute puissante dans l'économie mondiale actuelle à travers un exemple. Un exemple tout simple pour appréhender la notion de PIB. Imaginez un village composé de 4 habitants et de 3 entreprises. Chaque entreprise emploie un travailleur différent. Chacun est donc par définition patron de son entreprise. Voilà un point que l'on a trop souvent tendance à oublier. Le patron est un employé qui touche un salaire pour son travail, mais il n'a aucune raison d'être le propriétaire de l'entreprise. Dans mon exemple, c'est le dernier habitant du village qui est le propriétaire des 3 entreprises. Il est leur unique actionnaire. Actionnaire versus patron. Encore un terme qui peut parfois porter à confusion. Actionnaire veut dire propriétaire. Trop souvent, les patrons sont confondus avec les actionnaires. Or, s'il est vrai que, dans le capitalisme de la révolution industrielle, fin 19e, début 20e siècle, les grands actionnaires étaient aussi souvent les patrons, Henry Ford était le patron et l'actionnaire majoritaire de l'entreprise Ford, ce n'est aujourd'hui plus toujours le cas. Par exemple, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, possède 53% de son entreprise. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ne possède quant à lui que 16% de l'entreprise qu'il dirige. Bref, revenons-en à mon exemple. Les 3 entreprises de mon village s'occupent respectivement des 3 activités suivantes. La première pêche des poissons, la deuxième les prépare et la troisième les cuisine. La première entreprise vend les poissons qu'elle a pêchés pour 40 euros à l'entreprise numéro 2. L'entreprise numéro 2, une fois les poissons préparés, les vend 80 euros à l'entreprise numéro 3 qui, une fois qu'elle les a cuisinés, les vend pour 120 euros aux 4 habitants du village. Le PIB se calcule de 3 manières. C'est la somme de la valeur ajoutée, prix de vente moins coût fournisseur, la somme de ce qui est consommé par la population, auquel il faut ajouter l'investissement, et la somme des revenus, salaire, dividende, loyer, intérêt. Le chef vous propose son PIB en 3 façons. La question est la suivante. Quel est le PIB de mon village? Il y a 3 manières de répondre à cette question. La première est de s'intéresser aux dépenses finales de consommation de la part de la population. Il faudrait également y ajouter l'investissement de la part des entreprises et de l'État, mais nous simplifions ici volontairement. Les 4 habitants dépensent 120 euros pour acheter du poisson, donc le PIB est de 120. L'autre angle est de s'intéresser à la valeur ajoutée, les richesses produites par chacune des 3 entreprises. L'entreprise numéro 1 pêche des poissons que la nature met gratuitement à sa disposition. En effet, si la nature est bien le fournisseur du poisson, celle-ci n'a pas besoin d'être rémunérée. En revanche, cette même entreprise vend son poisson 40 euros à l'entreprise numéro 2, Un poisson obtenu gratuitement et revendu 40 euros fait donc apparaître une valeur ajoutée de 40 euros. Autrement dit, la richesse que représente l'activité « aller à la pêche » est valorisée 40 euros. Quelle est alors la valeur de l'activité « préparation des poissons » ? Puisque l'entreprise 2 achète les poissons 40 euros pour les revendre 80 euros, on en déduit que la richesse qu'elle ajoute est de 40 euros. De la même manière, l'activité « cuisiner les poissons » est valorisée 120 euros moins 80 euros égale 40 euros. La somme des valeurs ajoutées, des richesses créées, par les trois entreprises, 40 euros plus 40 euros plus 40 euros, nous donne un PIB de 120 euros. Le dernier angle de calcul propose de s'intéresser à la place de la rémunération des quatre habitants de mon village. Nous l'avons vu, chacune des entreprises produit une valeur ajoutée de 40 euros. Cela signifie que chacune des entreprises peut distribuer à ses salariés et à ses actionnaires un total de 40 euros. La valeur qui revient aux salariés s'appelle le salaire, celle qui revient aux actionnaires s'appelle le bénéfice, qu'ils peuvent librement choisir de réinvestir dans l'entreprise ou de se verser sous forme de dividendes. Si je choisis de faire de mon exemple un monde égalitaire, travailleurs, patrons et actionnaires doivent être rémunérés à part égale. Les premiers sont tous les trois payés 30 euros chacun, tandis que l'actionnaire récupère 3 fois 10 euros égale 30 euros. Ici encore, on retombe sur le PIB, puisque 4 fois 30 euros égale 120 euros. Cependant, il ne vous aura pas échappé que si j'avais choisi de rémunérer les travailleurs moins de 30 euros, alors l'actionnaire aurait obtenu un pouvoir d'achat supérieur aux trois travailleurs et aurait donc pu consommer davantage de poissons cuisinés. Il se serait évidemment produit l'inverse si j'avais choisi de rémunérer les travailleurs plus de 30 euros. La lutte des classes. La répartition des revenus entre actionnaires et travailleurs est une question cruciale en économie qui, malgré l'effort de certains modèles théoriques, n'a pas de réponse satisfaisante. Nous l'avons déjà expliqué, la loi de l'offre et de la demande n'aboutit à rien de plus qu'à une distribution aléatoire. Il n'y a pas d'équilibre unique. Il s'agit essentiellement d'un rapport de force. Les uns et les autres tentent de tirer la couverture à eux. C'est ce tirage de couverture que Marx a appelé la lutte des classes. La classe des possédants, les actionnaires, s'oppose à la classe des travailleurs, les salariés. Cela dit, la distinction entre ces deux classes était beaucoup plus aisée à l'époque de Marx. Aujourd'hui, à cause de l'apparition de la classe moyenne qui combine souvent revenus du travail, salaire, et revenus du capital, dividendes mais aussi loyers, intérêts perçus sur des prêts et plus-values financières, la distinction n'est plus aussi nette. Cependant, cela n'empêche pas le financier et milliardaire américain Warren Buffett de dire « Il y a bien une guerre des classes, c'est vrai, mais c'est la classe à laquelle j'appartiens, celle des riches, qui est en train de la mener et de la gagner. » Voilà donc comment notre système économique définit la richesse. C'est la somme des dépenses de consommation finale des agents économiques, particuliers, entreprises et États. C'est aussi la somme des valeurs ajoutées ou richesses créées par l'ensemble des agents, et c'est enfin la somme de leurs revenus. Ces revenus se classent dans deux catégories. Les revenus du travail, matérialisés par le salaire, les revenus issus de la propriété d'un bien ou d'une somme de monnaie, on parle de revenus du capital, matérialisés par les bénéfices, dont les dividendes font partie, les loyers et les intérêts. Vous devez bien comprendre que ces trois égalités sont comptables. Personne n'a choisi de faire en sorte que ces trois méthodes de calcul aboutissent au même résultat. Il s'agit simplement de la conséquence d'une réalité arithmétique que nous avons déjà évoquée. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Les relations entre l'État et Mister PIB. Comment calcule-t-on le PIB si l'on y inclut l'État? Que faire des impôts, des taxes, des cotisations, des salaires des fonctionnaires et des aides sociales. Le rapport de l'État aux richesses. Si l'État, que j'ai défini ici comme l'association du gouvernement, de la sécurité sociale et des collectivités locales participent bien au PIB puisque les services qu'ils proposent sont de véritables richesses, infrastructures, éducation, santé, justice, défense. Ce qui est différent et peut prêter à confusion, c'est la manière dont ils se financent. Les dépenses de l'État sont absolument similaires à celles d'une entreprise, paiement de salaire, achat de matériel, investissement, mais pas de dividendes. En revanche, ces revenus ne viennent pas de la vente des richesses qu'ils proposent, sauf dans certains cas particuliers où une partie du service est payée par les utilisateurs, comme les transports publics, parce que son rapport à la richesse est essentiellement non marchand. Derrière les richesses que valorise un État, existe l'idée que celles-ci doivent être accessibles à tous en fonction de leurs besoins et non de leurs revenus. C'est d'ailleurs parce que nous sommes habitués à associer consommation d'un bien ou d'un service et paiement pour ce dernier que nous avons parfois du mal à comprendre pourquoi une partie de nos revenus et de nos dépenses donne lieu à des prélèvements. Imaginez si toutes les routes étaient payantes, s'il fallait payer un abonnement pour avoir accès aux parcs et aux places publiques. S'il fallait payer la police ou les pompiers pour qu'ils viennent à notre secours, etc. Les aides de l'État, une valorisation de l'effort collectif. Pour rendre des richesses accessibles à tous, l'État demande à chacun une contribution afin d'alimenter une tirelire qui permet la distribution de revenus à ceux qui les produisent. Vous pensez certainement aux fonctionnaires. Et vous avez raison, mais il ne faut pas oublier les retraités, les chômeurs, les handicapés, les étudiants, les parents, etc. Il s'agit ici de rendre des richesses accessibles à tous, mais aussi de valoriser des richesses qui ne peuvent pas entrer dans un rapport marchand. Pour ne donner qu'un seul exemple, les parents qui élèvent leurs enfants créent une richesse en éduquant leur progéniture. Pour autant, on ne peut pas demander aux enfants de rémunérer leurs parents pour cela. C'est donc la perception d'allocation familiale qui valorise l'effort des parents à la création de richesses. D'une manière générale, tout revenu versé par l'État peut se comprendre comme une reconnaissance de la participation à un effort collectif pour la création de richesses du pays. Les dépenses de l'État français. Je ne résiste pas à vous fournir un petit récapitulatif des dépenses publiques françaises, histoire que vous ayez un ordre de grandeur en tête. La dépense publique totale, budget de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale, était de 1 294 milliards d'euros en 2017, soit 56% du PIB. Arrivent en première place les dépenses liées aux retraites, puis la santé, suivie des dépenses d'éducation et de recherche. En quatrième position, nous trouvons les dépenses allouées au transport, à l'environnement et aux infrastructures, puis les dépenses d'administration, suivies par la défense, la sécurité et la justice. En septième position se trouvent les dépenses allouées aux affaires économiques, suivies par les allocations familiales. En dixième position se trouve le financement du chômage, des loisirs, culture et culte, du RSA et autres primes d'activité, pour terminer par l'aide au logement. Les impôts et les taxes, les revenus de l'État. Deux visions idéologiques s'opposent. Celle qui consiste à dire que la richesse n'est produite qu'en entreprise. S'il s'agit d'une entreprise privée, c'est le prix de la richesse défini dans le rapport marchand qui en détermine la valeur. Tandis que s'il s'agit d'une entreprise publique, c'est le niveau des impôts et taxes qui en définit la valeur. Et oui, militer pour une réduction globale des impôts et prélèvements, c'est militer pour la dévalorisation des richesses créées par le secteur public. De cette vision découle le fait que les aides sociales portent parfaitement bien leur nom. Elles permettent d'aider des personnes dans le besoin qui ne participent pas à la création de richesses, ou de réduire les inégalités de revenus. Celle qui consiste à dire que la richesse est diverse et que de nombreuses activités réalisées en dehors des entreprises et du cadre du marché doivent néanmoins être valorisées. Les chômeurs, les étudiants, les retraités, les parents participent au lien social, à la cohésion des familles, s'engagent dans des associations, etc. Selon cette vision, les aides sociales sont une forme de salaire qui rémunère du travail. Pas besoin donc d'avoir cotisé pour avoir accès à ces aides, puisque celles-ci valorisent une activité réalisée dans le présent. Évidemment, ces deux visions ne sont pas exclusives et on retrouve des idéologies plus ou moins ancrées d'un côté comme de l'autre. Toujours est-il que, afin de valoriser des richesses accessibles à tous sans nécessité de paiement, l'État fait contribuer l'ensemble des agents économiques à travers les taxes et impôts divers. Sans trop rentrer dans le détail, les principales sources de revenus de l'État sont la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, prélevée sur les dépenses de consommation des particuliers, les entreprises ne paient pas cette taxe, l'impôt sur le revenu, visant les particuliers, l'impôt sur les bénéfices, visant les entreprises, et les différentes cotisations visant tous les agents économiques. Les revenus de l'État dans le PIB. En retour, l'État participe aux revenus des particuliers, salaires des fonctionnaires et différentes aides, et à ceux des entreprises, dépenses d'investissement. Il s'agit d'une boucle fermée. Tout ce que l'État récupère d'un côté, il le verse de l'autre. Le calcul du PIB ne change pas vraiment. Il faut simplement s'assurer de ne pas compter deux fois la même chose. Notez que l'État a accès à la création monétaire des banques de dépôt par l'intermédiaire des marchés financiers, ce qui lui permet de verser plus que ce qu'il touche, ou, dit autrement, de dépenser plus que ce qu'il gagne, donc d'investir. Importation versus exportation. Les revenus des uns sont les dépenses des autres, mais les uns et les autres ne vivent pas nécessairement dans le même pays. Lorsqu'un Français dépense 100 euros pour acheter une voiture allemande, les 100 euros passent la frontière en direction de l'Allemagne, et une voiture allemande fait le chemin inverse. On parle d'importation. Du point de vue de l'Allemagne, parce qu'une voiture produite chez elle vient de s'en aller en France, on parle d'exportation. La balance commerciale. Comment les importations et les exportations impactent-elles le PIB? La réponse est assez simple. Parce que le PIB est la somme des revenus, des dépenses et des richesses produites sur le territoire national, les importations, les richesses qui arrivent de l'étranger, doivent être exclues du calcul, tandis que les exportations, les richesses produites sur le territoire national mais vendues à l'étranger, doivent en faire partie. On parle de balance commerciale, excédentaire ou déficitaire, pour décrire la situation exportatrice nette ou importatrice nette d'une nation ou d'un groupe de nations. Il est important de comprendre qu'une situation de balance commerciale excédentaire correspond à un excédent de production et de revenus, et donc à un déficit des dépenses de consommation, tandis que la situation est inversée en cas de déficit commercial. Autrement dit, un pays excédentaire produit plus et donc gagne plus que ce qu'il dépense, tandis qu'un pays déficitaire produit moins et donc gagne moins que ce qu'il dépense. Les deux pays riches les plus souvent cités pour représenter ces deux tendances sont l'Allemagne et les États-Unis. Le premier est exportateur net de 6,6% des richesses qu'il produit, tandis que le deuxième est importateur net de 3% des richesses qu'il consomme. Chiffre de 2018. Le financement des importations. Peut-être vous demandez-vous comment les agents économiques, particuliers, entreprises, États, des pays importateurs nets peuvent-ils financer leur excédent de consommation? Toutes les dépenses, déficit compris, se financent toujours de la même manière. Soit par l'épargne, utilisation de promesses existantes, soit par le crédit bancaire, création de nouvelles promesses. Pour résumer, les dépenses liées aux richesses importées ne génèrent pas de revenus pour les agents économiques du pays analysé, d'où un flux sortant. Ces dépenses sont financées par l'épargne ou par la création monétaire. Les revenus liés aux richesses fabriquées dans le pays puis exportées génèrent des revenus sans avoir provoqué de dépenses pour les agents économiques du pays analysé, d'où le flux entrant.